Loué et remercié soit le Seigneur, de ce que nous croyons que cette puissance est encore là et que, encore aujourd'hui, elle remplit chacun qui se met entièrement à sa disposition. Je voudrais, avant la prière, lire une parole ou bien deux paroles très rapidement de l'Évangile de Jean, le chapitre 20, où nous lisions déjà hier. Aujourd'hui, je voudrais lire le verset 30, le verset 31 encore. Nous avons mentionné le verset, nous avons lu jusqu'au verset 29 hier. Aujourd'hui, je lis à partir du verset 30. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Jean 20, verset 31 maintenant. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le oint, le Christ, le Fils de Dieu, le Messie. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Je pense que ce sont des paroles très importantes et que ce ne sont pas des déclarations vides, sans sens. Mais nous savons que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il nous accorde le salut, il nous accorde la guérison, il nous accorde la victoire. Car il est écrit ici, afin qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Mais bien aimé, alors cela, le contraire, c'est que si nous ne croyons pas en son nom, nous ne pourrons pas avoir la vie. Mais nous ne voulons pas être incroyants, mais nous voulons croire en ce nom et en sa puissance qui est encore la même encore aujourd'hui, comme nous l'avons chanté dans ce cantique merveilleux. Notre Seigneur lui-même dit, ici encore des paroles merveilleuses dans sa prière, dans Jean, dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, à partir du verset 3. Or, la vie éternelle, celle qui sait qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça, ce sont des paroles très merveilleuses que notre Seigneur a prononcées. Mais bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit, que nous puissions reconnaître celui qui a été envoyé, savoir, reconnaître, connaître, savoir qui il était, qui il est et qui il sera. Et là, il n'y en a pas d'autre que Jésus-Christ notre Seigneur lui-même. Il est Dieu au-dessus de tout. Il est Seigneur, il est le Seigneur au-dessus de tout, c'est ainsi que Pierre écrit. Et nous le croyons de tout notre cœur, de ce qu'il est le Seigneur. Et pour cela, nous en sommes très reconnaissants et heureux. Au verset 8, il est écrit, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Mes bien-aimés, ça c'est quelque chose de glorieux, de ce que le Seigneur ici rend ce témoignage. Et dans sa prière, il exprime, ils l'ont connu, et nous savons, ils l'ont vraiment connu. Et vous savez, le Seigneur une fois a demandé, qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme? Et il y a eu différentes opinions, mais à Pierre, cela a été révélé. Et mes bien-aimés, c'est quelque chose de merveilleux, de ce que nous pouvons voir que c'est pas seulement à Pierre que cela a été révélé, mais que cela a été révélé aussi à son épouse dans ces jours, dans ces derniers jours. Et mes bien-aimés frères et sœurs, nous croyons que c'est la plus grande chose que nous avons reçue par la grâce de Dieu. Ici, nous voyons que si ces choses n'étaient pas importantes, alors elles ne seraient pas écrites ici. Mais c'est la parole de Dieu et notre Seigneur a exprimé lui-même ces paroles. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te... Est-ce que vous voyez de quoi il s'agit? C'est en cela, or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oh oui, l'avons-nous connu nous tous? C'est ça qu'il s'agit. C'est en cela qu'est constituée la vie éternelle. Mes frères et sœurs, ou bien amis, qui que tu sois, que tu puisses le connaître, l'expérimenter personnellement, l'avoir rencontré personnellement, avoir fait connaissance avec lui et l'avoir expérimenté et vivre avec lui et être avec lui et dans sa présence. Sinon, nous ne pourrons pas subsister devant lui. comme nous l'avons lu, afin qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ce sont des paroles très précieuses pour la vie éternelle. Et c'est peut-être raison que nous sommes heureux et reconnaissants. Et nous sommes arrivés en ce jour de la Pentecôte. Et nous ne pouvons pas dire qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu doit se répandre obligatoirement. Mais nous l'attendons, comme ils l'ont entendu autrefois. Et ils l'ont entendu dans la patience et dans la prière, comme nous l'avons chanté. Ils étaient d'un commun accord, unis ensemble. Pas, chacun n'avait pas comme ça ses propres pensées, mais ils avaient le seul but, la seule pensée dirigée sur la promesse que leur Seigneur et leur Maître leur avaient laissée. Mais bien, mes frères et sœurs, la promesse n'est pas seulement donnée pour eux autrefois, mais pour nous tous. Elle est là. Est-ce que nous, ou bien alors nous ne croyons pas? C'est sûr, la promesse a été donnée et nous pouvons la revendiquer. Que Dieu puisse nous bénir encore ce matin. Nous sommes reconnaissants de ce que nous pouvons nous lever pour ensemble l'adorer. Dieu fidèle, nous venons ce matin pauvres et misérables. Nous ne pouvons rien apporter. Nous ne pouvons rien non plus nous procurer. Mais Seigneur, tu as accueilli ton peuple. Tu as pensé à nous. Et aussi pendant ces jours. Et tu sais que nous ne pouvons rien faire sans toi et sans ta puissance, Seigneur. Mais nous attendons l'accomplissement d'être rempli de cet esprit, que ton esprit et ta puissance puissent se répandre sur nous comme le premier jour de la Pentecôte, sur Pierre, sur Jean, sur tous tes serviteurs que tu t'es choisi, que tu t'étais choisi. Seigneur, nous te demandons, avec un cœur humble, nous venons devant toi et te disons de tout notre cœur, reconnaissance, action de grâce, de ce que ta parole, tu nous l'as adressée et que nous la croyons de tout notre cœur. Et aussi tes promesses, ta promesse, nous la croyons, car tu n'as pas changé. Tu es encore le même hier, aujourd'hui, et le même éternellement. Et c'est peut-être raison que nous te demandons de tout notre cœur, Seigneur, avec un cœur courbé, humide, humble, viens parmi nous, ôte tout notre représentation de cette expérience, ôte tout de notre cœur, comme autrefois. Ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire. Mais ton esprit est venu à leur secours. Il est venu au secours de Philippe. Tu as envoyé ton ange. Tu lui as donné des instructions. Et dans tous les actes des apôtres, Seigneur, accorde des instructions par ton Saint-Esprit. Ça n'a pas l'importance de quelle manière. Que tu envoies un ange. Ou bien que par ton Saint-Esprit, tu parles. Mais nous avons besoin de tes instructions avant de faire quelque chose plus que jamais auparavant. Seigneur, accorde ta grâce. Nous nous tenons là devant toi. Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu sais pourquoi est-ce que nous cherchons ta face. Et te supplions, sois proche de nous encore ce matin. Et bénis ton peuple. Mes frères et mes sœurs et tous ceux qui sont venus, Seigneur, secours tous. Ôte tout ce qui ne vient pas de toi. Ôte de nous tout ce qui ne vient pas de toi. Et fais de nous, Seigneur, selon tes pensées. Fais quelque chose de nous selon tes pensées. Oh mon Dieu, nous t'adorons. Et donnons à toi seul l'honneur. Alléluia. À ton merveilleux nom. Amen. À partir du verset 47, Luc 24, verset 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. À commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez ici dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Ceci est un compte-rendu d'un événement qui, moi personnellement, depuis des années, me va très dans le cœur, très profond dans le cœur. Notre Seigneur n'a pas croisé ses bras alors qu'il quittait les siens. Il s'est élevé, il a détendu ses bras sur les siens et il les a bénis. En levant les mains vers eux, il les a bénis. Et les Saintes Écritures disent, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Et il bénit encore aujourd'hui. C'est en bénissant qu'il a été enlevé au ciel, qu'il est monté au ciel. Et c'est en bénissant qu'il est parmi son peuple. Et c'est en bénissant qu'il reviendra nous prendre et dira, vous êtes les bénis de mon Père. Venez hériter du royaume. Notre Seigneur bénit les siens. Cela me touche beaucoup. Il a pas mis ses mains dans ses poches. Il les a détendues et il a béni. Comment ont dû ressentir ceux qui regardaient, qui se laissaient bénir de lui, et ensuite qui pouvaient voir alors qu'il se séparait d'eux et était enlevé dans la gloire. Mais bien-aimés, le message de Dieu vient du cœur de Dieu et pénètre nos cœurs. Il n'est pas adressé à notre intelligence, à notre compréhension humaine, mais aux croyants qui peuvent recevoir sa parole dans leur cœur. Et c'est dans cet amour profond de Dieu que nous sommes ensuite liés avec lui, ayant reçu sa parole, s'étant adressé à nous. Nous comprenons chaque parole qu'il a prononcée de la bonne manière, nous ne l'interprétons pas, mais nous la croyons telle qu'il l'a dit. Et si nous voulions référer entièrement ces Écritures à nous, en ces jours, ici il est dit, et vous êtes témoin de ces choses, le verset 48, Luc 24, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez ici. Mais vous restez dans la ville ici, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le Seigneur ne voulait pas que les siens se mettent en chemin pour agir pour lui. Il voulait qu'ils puissent attendre, qu'ils puissent rester jusqu'à qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut, de la puissance d'en haut. Et c'est seulement après avoir été revêtus de la puissance d'en haut qu'ils doivent se mettre en chemin avec cette puissance d'en haut qu'ils ont reçue pour pouvoir être témoins de ce que Dieu a fait en eux. Aujourd'hui, nous voulons recevoir cette parole dans nos cœurs. Ne pas chercher de la détourner ou bien de chercher des prétextes. Mais disons, Seigneur, nous sommes ici dans cette ville. Nous sommes ici rassemblés devant ta face. Que tu puisses détendre tes mains bénies sur nous et tes mains percer, percer pour nous. Lève-les sur nous et confirme ta parole, accomplis ta parole en nous. Accorde-nous de ta vie, de ton esprit, de ta puissance, de ton amour. Accorde-nous tout ce que tu as. Partage-le avec nous. Établis ta demeure dans nos cœurs réellement. Alors, ce ne sera pas seulement que nous soyons devenus croyants, mais nous aurons aussi la puissance pour être témoins, pour que les choses que nous avons reçues, nous puissions aussi pouvoir les transmettre aux autres. Les prophètes de l'Ancien Testament ont d'une manière variée parlé, d'une manière multiple parlé dans Ésaïe, de ces choses dans Ésaïe. Ésaïe 45, verset 8. Que les cieux répandent d'en haut la bénédiction. En allemand, la bénédiction. Et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre pour que le soleil, pour que le salut y fructifie. Et qu'il en sorte de la foi, qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je l'ai dit, je l'ai prononcé. Que les cieux répandent d'en haut la bénédiction et que les nuées laissent couler sa justice. Que la terre s'ouvre pour que le salut y fructifie et qu'il en sorte de la foi, qu'il en sorte à la fois la délivrance. Le prophète Joël, d'une manière particulière aussi, l'a dit et l'a laissé élever ce qui allait se passer, ce qui est déterminé pour la fin des temps, ce qui est promis pour la fin des temps. Dans Joël, le Seigneur par lui l'a laissé annoncer. Joël, chapitre 2, verset 28 en français. Joël 2, le verset 28. Oui, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des révélations en songe, en allemand, et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, quand je répandrai mon esprit. Ça, c'est une promesse que Dieu le Seigneur lui-même a donnée. Jamais il la retirera, mais il l'accomplira toujours, car Dieu se tient sur sa parole. Et ce qu'il cherche aujourd'hui, ce sont des cœurs ouverts et des cœurs et des vases ouverts et des vases vides, n'être qu'un vase, maître, mais un vase rempli de ta puissance, des vases qui sont dans la foi ouverts devant le Seigneur, qui de tout leur intérieur sont prêts à recevoir ce que Dieu a à donner sans leur propre imagination, sans un programme déjà préparé. C'est en cela qu'est le grand problème. Quel est le grand problème? Dieu peut nous confier peu de choses seulement parce que nous avons toujours déjà un concept déjà conçu. Et ce n'est pas justement le concept que Dieu a fait. Dans la foi, nous attendons le prochain pas que nous avons à faire avec Dieu sans s'imaginer des choses. Il n'y a personne qui pourrait venir et nous dire, voilà comment est-ce que le chemin va se dérouler jusqu'à la fin, non? Non, il n'y a que des personnes qui ont la foi que Dieu les conduira pas à pas. Et cela jusqu'au but. Et que c'est lui qui connaît le chemin, le déroulement de toutes choses. Mais la promesse reste valable. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et ainsi vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des révélations en songe, dans des songes. Et vos filles et vos jeunes gens des visions. Il faut que cela soit dit clairement que à chaque fois que l'Esprit de Dieu se répand, des choses surnaturelles produites par l'Esprit de Dieu sont manifestées. Pas comme dans un mouvement charismatique qui eux-mêmes veulent produire ces choses, mais il faut que ce soit par l'Esprit de Dieu que cela soit produit. Pas comme nous le voulons ou bien le souhaitons, mais comme Dieu veut l'avoir. Alors que hier, je parlais de ça, que nous aimerons avoir un signe de la part de Dieu pour fortifier la foi et que chacun individuellement puisse faire l'expérience. Alors, il y a une parole qui est revenue dans ma mémoire, qui est écrite dans la dernière lettre circulaire, Zacharie 10, verset 1. Demandez à l'Éternel la pluie au temps de la pluie de l'arrière-saison, en allemand, et de la pluie de l'avant-saison. Dieu a justement pour le commencement et la fin de l'histoire du salut, parce que c'est une partie prophétique, ces deux époques, le commencement et la fin. C'est peut-être qu'il a déterminé et ordonné les choses au temps. Dans ce temps maintenant, nous devons prier, et c'est-à-dire demander la pluie dans le temps de la pluie de l'arrière-saison. Donc, si cette pluie et si ce temps dans lequel nous sommes est déjà le temps de la pluie de l'avant l'arrière-saison, alors elle tombera aujourd'hui. Si ce n'est pas encore arrivé, si ce n'est pas encore le temps de la pluie de l'arrière-saison, nous attendons jusqu'à ce que ce temps arrive. Mais il y a une chose qui est certaine. Ce temps viendra et nous recevrons ce que Dieu nous a promis. Seulement, nous voulons appartenir à ceux qui, dans la plénitude de la foi, se tiennent, mais ne pas non plus, mais nous voulons pas non plus prescrire à Dieu ce qu'il doit faire. Mais en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit, chaque enfant de Dieu déjà aujourd'hui peut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et si, de manière collective, Dieu déverse sa bénédiction et sa pluie sur tous, comme cela s'est passé au commencement et comme ce sera encore à la fin, alors nous sommes aussi pour cela reconnaissants. Seulement, pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension, il fallait que je précise la différence des choses. Maintenant, avant que je lise le Nouveau Testament, je voudrais en fait lire ce que j'avais l'intention de faire déjà hier. Je voudrais rapidement ce matin le lire. C'est-à-dire de la même prédication, j'ai le titre. Je crois que je ne l'ai pas dit hier, le titre de la prédication. Il en a tenu une semblable qui est déjà, que nous avons déjà édité. Est-ce que Dieu change ses pensées sur sa parole? Mais ça, c'est une prédication, maintenant que je lis, là, qui a été tenue dans une autre ville que celle que nous avions déjà édité. Et ici, il est dit, l'Église est constituée de personnes nées de nouveau, qui, en Christ Jésus, sont devenus une nouvelle création, une nouvelle créature. Nous voyons que Dieu, toujours encore, confirme sa parole, fait ce qu'il dit. L'Église est constituée de gens, de personnes qui sont nées de nouveau. Et ça, nous l'avons déjà traité ici et exposé. Lors d'une naissance naturelle, il faut un engendrement naturel, il faut une semence naturelle afin qu'une nouvelle vie naisse dans ce monde. Lors de la naissance de Dieu, aussi il faut qu'il y ait la semence de Dieu qui soit là, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et si la semence divine n'est pas là, on peut tous parler comme on veut, prêcher comme on veut, rien ne se passe. La vie nouvelle ne sera pas manifestée si ce n'est que la semence divine, premièrement, d'abord, dans nos cœurs, a été reçue, placée. Et c'est de cela que ça s'explique Pourquoi est-ce qu'il y en a peu qui ne peuvent pas naître de nouveau? Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de croyants qui sont devenus croyants, mais qui ne sont pas devenus des nouveaux hommes dans lesquels la nature et la vie de Jésus-Christ peut être manifestée? Ensuite, déclaration. Ils ont reconnu qu'ils avaient reçu cette puissante révélation seulement parce qu'un prophète était parmi eux. Ils avaient un prophète, quelqu'un qui les conduisait. C'était pas un système humain comme ils étaient habitués avec des délégués et des dignitaires qui avaient à décider. Ils avaient un dirigeant, un homme, un dirigeant appelé par Dieu. Quel jour triste ça a été alors que l'Église du monde s'est retirée de la conduite du Saint-Esprit, s'est détournée de la conduite du Saint-Esprit. Et à la place de la conduite du Saint-Esprit, ils ont accepté un évêque ou bien quelque chose d'autre. C'était un jour triste. Le Saint-Esprit doit être celui qui dirige l'Église. Il a été envoyé pour confirmer les paroles de Jésus, pour que l'Église puisse vivre comme elle vivait au commencement. La même vie de l'Église. Ça aussi, c'est une déclaration étrange. Et il dit ici, quel jour triste. Alors que l'Église, n'est-ce pas, a refusé la conduite de cet esprit et s'est retiré de la conduite de cet esprit. Qu'est-ce qui est resté? Il est resté seulement qu'une forme extérieure, une apparence extérieure, sans que la vie de Dieu soit restée en elle. Mais Dieu nous a appelés à sortir. Mais nous devons être prêchés d'une manière que la parole de Dieu nous vivifie. Et j'utilise cette expression parce que parfois, il est dit qu'il y en a qui ont été prêchés d'une manière que la parole n'a pas produit d'effet en eux. En allemand, il y a une expression. Mais c'est parce que là où il est prêché seulement la lettre, rien ne se passe. Mais là où la parole de Dieu est révélée et apportée par le Saint-Esprit, c'est là que les hommes sont par la prédication vivifiés par la parole de Dieu. Et passer à la, est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Et passer à la vie, que le nom du Seigneur soit loué. Et ça, que Dieu puisse nous l'accorder à tous par sa grâce. Ensuite, il est dit, citation, si Dieu appelle encore, alors ça veut dire que cette promesse est valable pour l'Église. Un groupe de ici, quelque part en Californie, était il y a quelques semaines dans des prières profondément sincères. Ils se sont consacrés à Dieu et ils ont jeûné. Et là, le Saint-Esprit s'est répandu sur tout ce groupe et ils ont commencé à parler en autre langue. Et là, frère Branham se réfère à un petit groupe de prière qui préparait un champ de campagne pour Billy Graham et ils avaient dans le cœur que Dieu puisse bénir. Et pendant qu'il apportaient leurs requêtes devant la face de Dieu. Imaginez-vous quelle circonstance. Et c'est là que ça s'est passé, que le Saint-Esprit s'est répandu sur eux. Qu'est-ce que c'était? La consécration, le cœur ouvert, la foi et le désir profond, sincère, que Dieu encore une fois puisse parler et agir. Pour moi, cela semble avoir une signification que j'aimerais encore le relire. Si Dieu appelle encore aujourd'hui, alors la même promesse est valable pour tous ceux qui l'appellent. pour vous et pour ceux qui sont encore loin, aussi nombreux que le Seigneur Dieu les appellera. C'est ainsi que c'est écrit dans Actes des Apôtres, le chapitre 2. Ça, c'est la promesse originelle et Dieu se tient encore aujourd'hui sur cette promesse. Tant qu'il appelle encore, cette promesse reste encore valable et expérimentable. Je lis encore un passage, un groupe d'eux ici était dans la prière en Californie il y a quelques semaines passées, dans des prières sincères, profondes. Ils se sont consacrés à Dieu et ont passé du temps dans la prière et dans le jeûne. Et là, le Saint-Esprit s'est répandu sur tout ce groupe. Et ils ont commencé à parler en autre langue. Il continue. Ici, nous constatons que Moab avait imité charnellement. Je ne sais pas si tous nous le comprenons. Il y a un parallèle qui est tiré. Il y a deux choses qui sont placées l'une après l'autre. Israël, le vrai prophète, le vrai message de Dieu, le vrai peuple de Dieu. Et de l'autre côté, Moab, Balak, Balaam et Balak et tout ce qui appartient à ce groupe. Ici, il y a une comparaison qui est tirée. Et si dans ces jours, il y a plusieurs choses qui se passent sous le soleil, qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, qui n'ont pas selon les Écritures, alors nous ne devons pas nous laisser impressionner par ces choses, encore moins nous laisser retenir par ces choses, mais nous devons avoir devant les yeux, conserver devant nos yeux le programme de Dieu et nous laisser introduire dans le programme de Dieu et dire, Seigneur, ce que les autres font, que cela ne nous dérange pas et ne nous occupe pas. Nous voulons que parmi nous, tu et dans notre vie, tu puisses pouvoir te manifester. Ici, nous tirons les comparaisons et elles sont valables aussi très, très bien pour notre temps. Mais Dieu a toujours un peuple, encore, sous et parmi lequel le message prophétique pour ce temps a retenti, a été apporté. Et c'est là qu'il confirme sa parole. Déclaration. Il vit ce prophète au milieu d'Israël qui était capable de bénir, de maudire et de maudire, de conduire, etc. Mais ensuite, il a essayé par la politique de les imiter. C'est exactement ce qui s'est passé dans les églises d'aujourd'hui. Ils ont essayé, ou bien alors elles ont essayé, par un système quelconque d'imiter l'église primitive. Ça, vous ne le pouvez pas. Tous les autres peuvent le faire. Toi et moi, nous ne pouvons rien imiter. Car nous ne sommes pas déterminés à être trouvés dans une imitation. Nous sommes déterminés à expérimenter les bénédictions originales de Dieu qui appartiennent à la parole originale de Dieu. Nous sommes déterminés à les expérimenter dans ce temps et un désir profond doit naître en nous pour que Dieu puisse le satisfaire, le combler. Encore, ça continue. Le Saint-Esprit doit toujours être vivant dans l'Église, agissant dans l'Église et dans les églises, dans l'âge et l'Église dans l'âge dans lequel elle vit, la conduire et confirmer la parole qui est promise, qui a été promise pour ce temps dans lequel elle vit. Dieu a prononcé la parole depuis le commencement. Et il y avait tant de choses de la parole prononcée qui étaient pour cet âge, d'autres choses pour un autre âge et encore d'autres choses pour encore un autre âge. C'est ainsi que dans chaque âge, la parole promise par Dieu pour l'âge s'est accomplie dans l'âge. Vous voyez, c'est ainsi que le Saint-Esprit doit être vivant dans l'Église pour que l'Église, dans son temps, puisse le vivre, l'expérimenter. Et il faut que cela soit ici, ainsi aujourd'hui. Et pour confirmer le ministère des derniers jours, les signes des derniers jours et l'effusion du Saint-Esprit dans les derniers jours. Il faut que ce soit ici, ce soit là pour le faire. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui soit là pour le faire. Vous ne pouvez pas atteindre ces choses par un système, par l'œuvre d'un système. Dieu, il a un système. Et c'est lui qui nous accorde le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit nous est donné pour que les promesses de Dieu soient accomplies et qu'elles trouvent leur accomplissement par l'Église. Mais pour que de la parole de Dieu à l'Église, un pont soit fait, soit bâti, il faut que le même Saint-Esprit par lequel la parole de Dieu a été inspirée soit dans l'Église pour que cette relation divine existe et soit là. Et de cette relation divine, en vertu de cette relation divine du croyant à la parole et de la parole à Dieu, tout comme dans un cercle divin, tout puisse circuler. Qu'est-ce que le prophète Ésaïe dit? Ou bien Dieu par lui. La parole qui... Oui, ainsi en est-il de ma parole qui est sortie de ma bouche. Elle ne retournera point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu pour ce temps doit... Dans ce temps, parmi le peuple de Dieu, dans le peuple de Dieu, produire l'effet pour lequel elle a été envoyée et exécuter la volonté de Dieu et accomplir les desseins de Dieu. L'appel à sortir, la séparation des croyants, le blanchissement, la purification, la sanctification, la purification et délivrer les croyants de tout ce qui n'est pas en accord et n'est pas à trouver dans la parole de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Ça, c'est le premier pas, le premier pas. Mais notre expérience personnelle du baptême d'esprit et de feu nous ouvre la porte à l'accomplissement de la parole de Dieu dans notre propre vie. Si nous parlons de l'Église de manière globale, alors nous pourrons quelque part donc nous émerger dans ces choses. Mais l'Église est constituée d'individus, de membres. Et Paul écrit, adressant cela aux Corinthiens dans le chapitre 12, au verset 12 et 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Ça, c'est le Saint-Esprit qui, en tant que membre, comme membre, nous baptise dans le corps de Christ. C'est pour cette raison que il est nécessaire d'être baptisé dans l'Esprit de Dieu pour former un seul corps. Sinon, chacun va dans sa direction. L'un croit ceci, l'un croit cela, l'un a ses pensées, l'un va dans sa direction. Et les Écritures disent, nous devons tous parvenir à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu et atteindre la stature de l'homme parfait en Christ. Donc, nous, en tant qu'individus, cela est adressé à nous, cela a été adressé à nous et à chacun de nous, cette promesse du baptême de cet esprit et de feu est valable. Déjà maintenant, nous savons que, déclaration, Moïse avait un roi. Son roi était Dieu, qui l'avait oint. Aussi Balaam était soumis à un roi, Balak. c'était plus une relation politique avec Balak. Mais Balaam, qui était un prophète de Dieu, consultait ses informations chez Balak. Consultait Balak. Allait chercher ses informations à Balak. Mais Moïse se tournait à Dieu. Ça, c'était la différence. C'est ainsi encore aujourd'hui. Et là, à chaque fois, nous sommes nouvellement reconnaissants parce que nous savons que Frère Branham n'était pas seulement un prophète parmi tant d'autres, mais il était un homme, un prophète envoyé de Dieu par qui des prophéties bibliques dans ses derniers jours s'accomplissaient. Il était soumis à Dieu et obligé à apporter la parole de Dieu dans sa clarté et sa pureté. Et bien sûr que nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela. Il est écrit encore ici. Et malgré tout, les deux étaient des prophètes. Les deux étaient appelés par Dieu. Les deux avaient rencontré Dieu. Les deux parlaient avec Dieu. Les deux étaient remplis de l'Esprit. Mais maintenant, j'arrive à la chose principale. Les deux hommes étaient remplis de l'Esprit. Ça, c'est vrai. La Bible dit que Dieu avait rencontré Balaam et lui avait parlé. Nous voyons donc que chacun d'eux était un prophète. Les deux étaient des hommes de Dieu. Ils servaient leur tête, leur chef. Moïse servait Dieu et Balaam servait Balak. Donc, aujourd'hui, nous avons la Pentecôte et nous pensons, n'est-ce pas, à l'effusion du Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons, dans toute la sobriété, faire cette différence claire? La pluie tombe sur les justes et les injustes. Le soleil brille sur les bons et les mauvais. L'ivraie reçoit la même pluie que aussi le blé. Mais ce qui fait la différence, c'est ce qui a été semé dans le sol. Et ça, nous avons très clairement insisté là-dessus. Et si alors la parole de Dieu mûrit, alors je vous promets que ce que l'homme a semé, c'est ce qu'il va récolter. Avons-nous dans ces jours semé la sainte et précieuse parole révélée de Dieu, et c'est ce que nous avons reçu dans notre cœur, alors c'est ça qui va apparaître. Rien d'autre ne peut apparaître que ce qui a été semé. C'est peut-être raison que personne n'a besoin d'avoir peur devant le baptême d'esprit et de feu que quelque chose de faux pourrait apparaître. Ceux-là devraient plutôt s'inquiéter qui eux-mêmes sont dans l'erreur. Mais ça c'est la vieille astuce du diable. Tous ceux qui sont dans l'erreur, il les a enveloppés d'une manière qu'ils ne pensent jamais à se poser même la question, est-ce que ce qu'ils ont reçu est authentique, est original? Ils ne se posent jamais la question. Ils ne s'examinent jamais eux-mêmes. Mais ils exaltent, ils sont dans la... Et ils disent, nous allons tous au ciel. Alléluia. Ça, c'est leur moto. C'est leur phrase, ça. Mais l'Église épouse ceux qui sont sincères, qui veulent subsister devant Dieu. Ils s'examinent eux-mêmes. Ils s'examinent eux-mêmes. Et ils se sondent. Ils disent, Seigneur, toi aussi sonde-moi. De mon cœur jusqu'à dans mes reins. Et justement, pendant l'examen, on doit faire attention. Car là, l'adversaire vient. L'ennemi vient et dit, ah, mais regarde. Tu n'es pas encore comme tu devrais être. Et là, encore, il y a des lacunes ici. Il te manque ceci, il te manque cela. Résistez à l'adversaire. Résistez à l'ennemi. Résistez-lui. Ne lui donnez aucune chance, aucune occasion. Tenez-vous sur le sol de la victoire de Golgotha et dites, Seigneur, je t'appartiens pour ce temps. et pour toute éternité. Les épreuves sont bien, mais elles n'ont pas le droit de nous conduire à douter, à nous décourager, mais que nous puissions sortir victorieux de l'épreuve parce que nous regardons à Christ Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection. Alors nous sommes heureux et reconnaissants. Et cela prouve la foi que nous avons. Ensuite, il est écrit ici, citation, déclaration. Observez comment est-ce que cette image est parfaite entre spirituel et le naturel. Moïse, un prophète, un homme envoyé par Dieu qui exécutait les ordres de Dieu, qui rencontre un autre homme de Dieu, et de lui, il est défié. Par lui, il est défié. Donc Moïse est défié par Balaam. Est-ce que vous pouvez vous imaginer cela? Et là, bien sûr, notre doute, n'est-ce pas, commence. À quoi est-ce que ça nous sert? Un prophète, si il n'appartient même pas au peuple de Dieu, si il n'est même pas inclus dans la promesse. Dieu avait donné autrefois la promesse. Par qui? Par Isaac. En toi seront bénies toutes les descendances, toutes les nations. Balaam n'avait même pas de part à une promesse quelconque, aucune, que Dieu aurait donné, avait donné à Abraham, Isaac et Jacob. Aucune d'elles. Il n'avait aucune part. Alors à quoi est-ce que ça servirait que le Seigneur lui aurait parlé et lui aurait dit, ne va pas. Et nous voyons que il était têtu. Et mais Moïse conduisait le peuple d'Israël là où Dieu leur donnait de le conduire. Ils étaient conduits, le peuple était conduit par la colonne de feu. Une nature surnaturelle leur montrait le chemin. Moïse recevait ses ordres, bien sûr, du Logos qui est sorti de Dieu, qui était sorti de Dieu, de la colonne de feu. Et c'était l'ange de l'Alliance, Christ, le oin. De là, Moïse recevait ses messages, son message, et l'apportait aux enfants d'Israël pendant qu'ils étaient en chemin vers le pays de la promesse. Je pense que cela devrait presque suffire. Peut-être encore deux ou trois déclarations de Frère Branham seraient précieuses d'être lues. Et ensuite, nous allons chercher Dieu dans la prière. Au cas où aujourd'hui je parle à des hommes de Dieu, si on vous dit au QG, au siège, les jours des apôtres sont passés, et aussi à ce qu'on fait ici, et les choses pour lesquelles le Seigneur Jésus-Christ nous bénit, par lesquelles il nous bénit, et si on vous dit ça, c'est un groupe de fanatiques avec beaucoup de remue-ménage et d'émotion. La guérison divine n'existe plus. Alors sortez de ce groupe, car c'est la parole de Dieu qui est manifestée parmi nous. Ils disent, le temps des apôtres n'existe plus. Le baptême de cet esprit n'existe plus. De parler en langue, ce n'est pas important. Bien-aimés frères, ne prête pas l'oreille à ces choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont comme Balaam. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'écoutons pas les arguments d'autres et nous faisons même pas de plus. Nous n'écoutons même pas nos propres objections que nous pouvons avoir ici dans nos pensées. Dans le calme, nous les jetons tous au bord parce qu'elles font que nourrir en nous l'incrédulité. Nous nous détachons de toutes ces imaginations ordinaires, mais nous restons attachés fermement à la promesse que Dieu nous a donnée. Si ici il est dit concernant ceux qui prétendent le temps des apôtres sont passés, les signes, les prodiges, les miracles, n'existe plus. Le baptême de cet esprit n'existe plus. Le parler en langue n'existe plus. Et là, frère Branham dit, sortez du milieu d'eux. Et ensuite, cette demande spéciale. Oh frère, ne n'écoute pas ces choses. Ne prête pas l'oreille à ces choses. Si nous sommes des frères et des sœurs dans le Seigneur, vraiment, des frères et des sœurs, alors nous n'écoutons plus les arguments de ceux que l'adversaire utilise pour nous retenir dans l'incrédulité et dans le doute. Mais nous prêtons l'oreille à la parole de Dieu et dans la foi délivrée pour expérimenter les promesses de Dieu. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Ô frère, n'écoute pas ces choses. Aujourd'hui, il y en a encore beaucoup qui sont comme Balaam. Est-ce que je devrais prêter l'oreille à un Balaam, écouter un Balaam qui veut me dire ceci et cela? Ou bien alors, est-ce que je dois écouter mon Seigneur et mon Maître qui a donné la promesse? Ici, il est dit, et pour tranquilliser sa conscience, Balaam a utilisé un prétexte. Il a dit, restez ici cette nuit, je vais consulter Dieu. Peut-être qu'il a changé son opinion. Oh, qu'est-ce que nous devons dire là-dessus? Le Seigneur avait parlé à Balaam et lui avait donné une décision claire. Mais il a dit à ceux qui ont été envoyés là-bas, restez encore cette nuit ici et je vais consulter encore une fois Dieu. Mais bien-aimés, ne soyons pas comme Balaam. Nous n'avons plus besoin de consulter Dieu. Il nous a déjà répondu. Sa première réponse au commencement, le jour de la Pentecôte, est sa dernière réponse à la fin. Oui ou non? Ça ne peut pas être autrement aujourd'hui, différemment aujourd'hui. Dieu ne peut pas changer. Et notre foi est ancrée dans ça. C'est le temps est arrivé que l'enfer et les principautés des ténèbres tremblent et soient ébranlés. Et que nous restons sans être ébranlés, inébranlables, fermement fondés sur le fondement de la parole de Dieu. Et comprendre que dans cette position, Dieu nous soutient et est avec nous. Je m'excuse s'il y a une erreur de frappe. Je pensais que ça avait été corrigé. Mais Dieu ne change pas ses pensées. Si Dieu, le jour de la Pentecôte, nous a donné la promesse du baptême du Saint-Esprit, alors il doit l'accomplir. Ça, c'est ce qu'il a fait durant tout le temps biblique. Et il le fera dans chaque époque dans laquelle les croyants viennent à lui sur le même fondement qu'il a fondé au commencement. Si vous croyez, vous vous repentez et vous vous laissez baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et croyez Dieu. Alors, Dieu est obligé d'accomplir cette ordonnance. Il est le médecin. Il accomplira. Si vous passez par la repentance, et cela aussi est valable pour ces jours dans lesquels nous sommes. Exactement. Dieu ne change pas ses pensées sur sa parole. Si Dieu, le jour de la Pentecôte, a donné la promesse du baptême de Saint-Esprit, avait donné. Donc, il faut qu'il accomplisse. Combien de temps? Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à que le dernier qui doit entrer dans le royaume de Dieu, jusqu'à que le dernier soit né dans le royaume de Dieu et scellé du Saint-Esprit. Et ici, il a même dit, ça, il a fait pendant tout le temps biblique. Et il le fera dans chaque temps. Quand est-ce que c'est le temps biblique? Quand est-ce le temps favorable? Quand est-ce le jour du salut? Aujourd'hui, aujourd'hui, ce temps, ceci, voici, c'est le jour du salut, le temps de la grâce, le jour de la grâce, le temps de la grâce du Nouveau Testament. C'est encore celui-là dans lequel nous vivons, encore aujourd'hui. Donc ce que Dieu fait, il le fait en tous ceux de la même manière, du premier jusqu'au dernier, comme au commencement. Nous, en tant que parents terrestres, parents dans le terrestre, peut-être que, consciemment ou bien inconsciemment, nous ne voulons sûrement pas, nous traitons nos enfants de manière différente, un peu de favoritisme. Mais Dieu, lui, du premier jusqu'au dernier de ses fils et ses filles, ils sont traités de lui de la même manière. Le même pardon, la même grâce, le salut, la vie éternelle, le même baptême d'esprit et de feu, tout de la même manière, du premier jusqu'au dernier, comme c'était au commencement, sera de la même manière. Et je suis reconnaissant pour cela. Donc, nous avons, en raison de la parole de Dieu, une espérance justifiée. Et pas seulement cela. Nous avons une promesse de la bouche de Dieu lui-même qu'il accomplira cette promesse parce qu'il nous l'a donnée. Ici, il est dit, alors Dieu est obligé, dans la prochaine déclaration, d'accomplir l'ordonnance. Il est le médecin. Il l'accomplira. Si vous passez par toutes les étapes, la repentance, croire au pardon des péchés, vous laissez baptiser au nom de Jésus-Christ et le Seigneur fera le reste. Il a dit, ainsi vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il fera le reste. Il vous accordera ce don. Y a-t-il pas de pommade en Gilead? Y a-t-il pas de médecin? Si, ils sont là. La question est posée. Alors, pourquoi est-ce que la fille de mon peuple est encore dans cet état? Et nous avons ici la Bible. Nous avons le médecin, mais la pharmacie ne reste pas fidèle à l'ordonnance de l'Écriture. C'est ça qu'il s'agit. Elle dit, les temps de la Bible sont passés. Quelque chose de semblable au baptême de cet esprit. Et toutes ces choses n'existent plus. Ça, ils disent que ça n'a aucun sens. Non, la Bible est exacte. Dieu ne retire rien. Il ne retranche rien de ce qu'il a dit. Il ne retire rien. La Bible est exacte. Elle est vraie. Nous croyons que cela ne joue aucun rôle. Un moment. Peut-être que j'aurais dû mettre mes lunettes pour voir mieux. La Bible est exacte. Dieu ne retire rien de ce qu'il l'a dit. Ils essayent de le faire d'une autre manière en disant, nous croyons ceci. Ça n'a pas d'importance ce que vous croyez. Ce que Dieu a dit, c'est ce que nous devons croire. C'est ça qui est valable. Et il a dit, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Et il l'a promis pour les derniers jours. Croyez-vous de tout votre cœur le message de Dieu pour ce temps? Alors vous devez aussi croire ce que je viens de lire. Et il n'y a pas un autre chemin pour s'en détourner. Il n'y a pas de chemin. Aussi vrai que Dieu nous a révélé sa parole, et comme je le disais hier soir, il a fait pour cet objectif, pour cet objectif majestueux, pour que l'Esprit de Dieu se répande sur nous. Et cette parole de Dieu qui a été plantée en nous, pour que par l'Esprit de Dieu, elle puisse manifester la vie qui est dans la parole et rendre la parole une réalité pour nous. Et je voudrais le dire encore, pas de manière tendue et dans le fanatisme, non, détendu, complètement détendu dans la présence de Dieu et se réjouir du salut, de la grâce, du pardon de nos péchés et se réjouir de ce que Dieu a fait pour nous, a accompli pour nous. Et c'est au moment où on peut se réjouir et rendre grâce et remercier le Seigneur de tout notre cœur pour ce qu'il a accompli pour nous. C'est à ce moment-là qu'il pourra répandre son esprit comme un fleuve en nous. Ce n'est pas que nous devions nous efforcer, non. Non. Car c'est justement l'erreur qu'on fait, pas d'effort. Il s'agit de s'ouvrir devant le Seigneur, de croire, de lui rendre grâce, de le louer de la profondeur de notre âme. Oh Seigneur, je te loue, je te remercie de ce que tu m'as racheté, de ce que tu m'as appelé de mon nom et de ce que je t'appartienne. Je t'appartiens. Je te remercie pour Golgotha. Je te remercie pour le pardon de mes fautes. Je te remercie de ce que tu m'as agréé. Faites une telle réaction comme une chaîne de reconnaissance. Exprimez votre reconnaissance. Remerciez le Seigneur. Subitement, vous allez remarquer que vous n'êtes plus en train de prier dans votre esprit, mais que c'est l'Esprit de Dieu qui prend la relève et qui prie par vous. C'est pas partout que cela arrive, mais là où les gens cherchent vraiment le contact avec Dieu. Pas comme ça, se lamenter, crier. L'Esprit est déjà répandu, il est déjà là. Il y a la pommade en Gilead. Le médecin est là pour chacun de nous. Ce que Dieu a promis est déjà à notre disposition. Et je le répète encore une fois, sans effort, sans fanatisme, sans tension, sans propre effort, simplement détendu et passé dans l'adoration, dans la louange, exalter Dieu pour ce qu'il a fait en nous. Mon âme loue l'Éternel et n'oublie pas tous ses bienfaits. Et subitement, le Saint-Esprit intervient, vient sur nous. Et ce n'est plus nous qui prions, c'est lui qui commence à parler par notre bouche et à se révéler. Je vais lire encore rapidement. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, est le même éternellement. Cela ne veut pas dire dans un seul cadre, mais qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vraiment. Jésus-Christ disait, dans Jean 14, verset 12, « Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que j'ai fait. » Est-ce que cela est vrai? Dans Marc 16, il a promis, « Voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Ceux qui auront cru. On dit que cela était seulement valable pour les apôtres. Il a dit, « Allez dans le monde entier et prêcher l'évangile à toute la création. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Ça, c'est la mesure pour les croyants. Avez-vous remarqué cela? C'est ici la mesure biblique, le signe biblique, la mesure divine, la mesure qui est valable encore aujourd'hui. Si nous avons cru, vraiment cru, et que nous avons été revêtus de la puissance d'en haut, alors le Seigneur ressuscité, qu'il puisse, lui, ton rédempteur, mon rédempteur, qu'il puisse pas les racheter, rendre témoignage de sa résurrection en tant que le ressuscité. À qui est-ce qu'il a sur terre? Par qui il peut rendre témoignage? Par qui il peut se manifester? Qui croit sa résurrection? En qui est-ce que la puissance de la résurrection pouvait être manifestée? En qui? Seulement en ceux qui sont ressuscités avec lui. Alléluia! Et nous croyons de tout notre cœur que nous sommes crucifiés avec lui, avons été crucifiés avec lui. Avec lui, nous sommes morts. Avec lui, nous avons été ensevelis. Et avec lui, nous sommes ressuscités pour désormais marcher en nouveauté de vie. J'aime encore les répéter. Le Seigneur ressuscité peut que manifester sa puissance de résurrection dans les croyants qui sont ressuscités avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Et ça, nous le croyons. Nous croyons que Dieu nous a fait grâce et qu'il nous a accordé une nouvelle vie. Où est-ce que nous serions aujourd'hui? Nous ne serions pas assis ici. Nous serions quelque part dans le monde. Le Seigneur nous a fait sortir du monde et il a placé nos pieds sur le chemin étroit et il s'est tourné à nous plein de grâce et il nous a fait miséricorde. Mais il cherche des gens par qui il peut se manifester. Le Créateur s'est manifesté dans toute la création, se manifeste dans toute la création, le Créateur. Mais le Rédempteur, dans tous les rachetés, se manifeste. Le Créateur dans la création, le Rédempteur dans la racheté. Et nous appartenons à ceux-là par qui il se manifeste. Nous, pour servir à célébrer sa gloire et à ce groupe, nous pouvons appartenir. La gloire de sa grâce dont il nous a favorisé dans le bien-aimé. Quand est-ce que nous le sommes? Quand toutes les promesses qu'il a données à l'Église par nous, il peut les accomplir. Alors, elles sont justifiées, elles sont confirmées. Et nous sommes bénis, c'est vrai? Si Dieu peut accomplir les promesses, alors nous sommes bénis. Car toute promesse de Dieu, n'est-ce pas, a en elle une bénédiction. Nous essayons d'appliquer d'autres normes. Nous voulons mesurer l'Église parce que nous considérons comme étant la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas appliquer les normes des Églises. Nous devons appliquer la norme de Dieu. Sommes-nous aujourd'hui, sans condition, prêts vraiment à appliquer la norme de Dieu, la mesure de Dieu, la norme de l'Église primitive, la norme du temps des apôtres? Nous croyons que la fin sera semblable au commencement. Nous croyons que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga et qu'il est le premier et qu'il est le dernier. Sommes-nous prêts à appliquer cette norme? Si oui, alors Dieu nous conduira à la repentance et nous allons dire, Seigneur, vraiment, ça me fait mal de ce que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore reçu avec moi ce qui te revient de plein droit. Et que nous n'avons pas encore servi à la gloire de ta grâce, comme tu l'as prévu. Mais maintenant, nous venons ensemble devant ta sainte face et tu le feras. Là, maintenant, je termine. Je compare cela souvent avec aujourd'hui. Vous savez que l'Église a trois étapes de voyage. Luther, Wesley et les pentecôtistes. C'était en trois étapes. Dieu leur a donné un message de la justification. Luther l'a saisi. Ensuite, suivi la sanctification par Wesley et pour finir, le baptême du Saint-Esprit chez les pentecôtistes. Je vous dis, il y a une Église dans laquelle il n'y a pas d'hypocrite. Ça, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ qui a été baptisée du Saint-Esprit. Ici, on n'est pas persuadé à adhérer. Ici, on est par le Saint-Esprit. On est apporté dans l'Église par la naissance du Saint-Esprit. Est-ce que cela n'est pas merveilleux? Oui, il y a une Église. Et dans Hébreu, il est parlé de l'Église des premiers-nés qui sont inscrits aux cieux, des premiers-nés. Il y a une Église dans laquelle il n'y a plus d'hypocrites, d'incrédules, de pécheurs. Une Église qui est justifiée, qui est purifiée, qui est sanctifiée dans la présence de Dieu. Elle se tient lavée dans le sang de l'agneau, purifiée dans l'eau, dans le lavage dans l'eau de la parole de Dieu, scellée avec le Saint-Esprit. Appartenons-nous, est-ce que j'appartiens à cette Église? Quelle citation merveilleuse, puissante. Il y a une Église dans laquelle il n'y a pas d'hypocrite. Ça doit être une belle Église. Un cœur et une âme. Chacun aime chacun. Chacun comprend chacun. Chacun pleure avec chacun. Chacun se réjouit avec chacun. Tous tirent à la même corde, mais s'il vous plaît, aussi au même bout de la corde, pas à deux différents bouts de la corde. Cette situation est importante. Je vous dis, il y a une Église dans laquelle il n'y a pas d'hypocrite. Vous pouvez confier quelque chose à quelqu'un. Cela ne sera pas tordu ou bien mal compris. Cela ne sera pas dit différemment ou bien redonné à une tierce personne. Sans fausseté, béni est l'homme dont les péchés sont pardonnés, dans l'esprit duquel il n'y a pas de fausseté. Des hommes qui ont reçu la grâce de Dieu, qui ont été transformés, nés de nouveau, changés, qui ont reçu la vie de Dieu lui-même, qui la porte en eux, qui sont scellés du Saint-Esprit. Nous restons des hommes, mais sans fausseté, sans hypocrisie, sans malice, toutes ces choses qui préparent, qui créent des conflits, des problèmes. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Frère Branham qui le dit ici, par l'Esprit de Dieu. Il dit, je vous dis. Et ça, nous devons le dire, vous devez écouter sa voix sur la bande magnétique, avec quel ton il prononce, avec quelle certitude, avec quelle assurance, comme un impératif. Je vous dis, il y a une église dans laquelle il n'y a pas d'hypocrite. Ça, c'est l'église du Seigneur, Jésus-Christ. Bien-aimés frères et bien-aimés sœurs, je voudrais appartenir à cette église. Vraiment, être justifié, sanctifié, purifié, lavé dans le bain, dans l'eau de le bain de la parole, être conduit dans le corps du Seigneur qui est sans péché, qui est irréprochable, qui est déjà achevé, parfait, que Dieu, déjà en Christ, voit comme revêtu de blanc, déjà sur la mer, avait vu, déjà revêtu de blanc sur la mer de cristal. Nous devons tous appartenir à cette troupe. Oh, que l'Esprit de Dieu aujourd'hui, d'une manière si pleine d'amour, puisse, s'il pouvait descendre parmi nous et en nous tous produire, agir ces choses et produire ces choses et faire grandir ce désir à tel point qu'il soit obligé de le satisfaire, de le combler, parce que nous ne pouvons rien faire d'autre que demander au Seigneur de le faire et que de nouveau aussi, lui de sa part, il ne pourrait rien faire d'autre que de le satisfaire, de le combler et de répondre, de l'accomplir. Une église dans laquelle il n'y a pas toutes ces choses, qui est remplie, qui est baptisée d'esprit et de feu, qui a été baptisée de cet esprit. Ici, on ne persuade personne d'adhérer. Ici, on y naît par le Saint-Esprit. On est apporté par la nouvelle naissance dans l'église. Ça, je le crois. Je crois que Dieu l'a fait avec nous. Vous voyez, je ne veux pas critiquer. Je vous aime. Le vrai amour, cette déclaration, se laisse toujours corriger. Il nous manque Christ dans l'église. Il nous manque de voir. Ce qui nous manque, c'est les pentecôtistes, c'est de voir Christ. Bien, mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont plus ces vieilles réunions de prière qui duraient nuit et jour, etc., etc. Ici, il nous est dit, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus. Christ n'est pas avec nous comme il veut être avec nous, comme il devrait être avec nous. Et nous portons un désir vers ces choses, pour ces choses. Ici, il nous manque la puissance que nous devrions avoir. Le grand mécanisme devrait tourner à plus rapidement. Des grands signes et prodiges et miracles devaient avoir lieu. Ce bâtiment devrait être rempli de la puissance de Dieu. Qu'un pécheur ne peut plus ici entrer sans que tout de suite il soit saisi et conduit et convaincu du péché par le Saint-Esprit, comme cela s'est passé avec Ananias et Saphira. C'est une telle église que Frère Branham présentait, une église biblique dans laquelle le Seigneur reçoit ce qui lui revient de plein droit, de tout son droit. Nous pourrions nous poser la question, comment est-ce que cela doit avoir lieu? Avec Dieu, toutes choses sont possibles. Le Saint-Esprit viendra sur nous et la puissance du Très-Haut nous couvrira de son ombre. Et alors, de la semence corruptible de la parole de Dieu, seulement quelque chose de divin peut en sortir, peut naître. Maintenant, je voudrais quand même vous poser la question. Est-ce que cela n'était pas des déclarations merveilleuses, précieuses? Est-ce qu'elles n'étaient pas, est-ce que tu sais pas, vraiment pour l'objectif pour lequel nous sommes rassemblés ici? Est-ce qu'elles ne touchent pas le noyau en relation avec le baptême d'esprit et de feu? Et d'être revêtu de la puissance d'en haut? Le Seigneur a des pensées de paix avec nous. Il veut notre bien, il sait à quel point nous pouvons arriver avec notre force. Il ne sait pas seulement ce que ce cantique dit. Notre Dieu est une ferme forteresse, mais il sait aussi que nous ne pouvons rien faire de notre force. Nous ne pouvons même pas atteindre quoi que ce soit. Mais comme le cantique le dit, si vous voulez savoir, son nom, c'est Jésus-Christ. C'est sa victoire qui est notre victoire. Et sa force est notre force. Et ainsi, nous sommes reconnaissants de ce qu'il va. Il marche devant nous en tant que les prémices, en tant que le premier né, le Fils de Dieu, pour tous les fils et les filles de Dieu, pour tous les premiers-nés, pour tous ceux qui sont nés de la parole et de l'esprit dans ces derniers jours-là. Je crois comme auparavant que Dieu, à la fin, fera les choses les plus grandes et les choses les plus glorieuses. Mais ça aussi, nous l'avons entendu. Il y aura une église dans laquelle il n'y a pas d'hypocrite. Il n'y en aura plus avec deux visages, avec deux langues, seulement des gens avec deux yeux, deux pieds, mais toujours partout comme ça, ça doit être. Ça doit toujours tel que ça doit être. Et on ne produit pas autant de dégâts avec deux oreilles qu'avec une seule langue. Dieu, de manière si merveilleuse, prendra soin pour tout. Vous pouvez tous le croire? Ne soyez pas tristes. Si vous saviez comme Dieu veut notre bien, comme plein de bonté il parle avec nous, je le ressens. De ces déclarations, je ressens l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu avait directement pénétré notre bien-aimé frère Branham. Il n'avait pas un bâton entre les mains et puis il ne tenait pas des prédications de critique. Non, il a montré à l'Église le chemin du Seigneur pour atteindre la perfection. Et c'est à cela que nous arrivons. À cela, seulement si la puissance de Dieu peut être manifestée en nous, nous arriverons à cela, à la perfection. Et je crois qu'elle sera manifestée en nous. Loué et exalté soit notre Seigneur qui a déjà fait de grandes choses jusqu'à maintenant en nous et qui fera encore de plus grandes. Les choses les plus belles et plus glorieuses viennent encore. Dieu lui-même, il sait conserver la fin comme autrefois au commencement. Le temps est passé et nous allons, Dieu voulant, cet après-midi, lire les Écritures, les Saintes Écritures, les versets bibliques. Vous voyez que on se propose quelque chose de faire et le Saint-Esprit conduit différemment. Mais je suis intérieurement satisfait et dans le repos. Je me repose dans ces choses car je sais que Dieu le Seigneur, ce matin, a parlé avec nous tous. Voyons, s'il vous plaît, la nécessité de la puissance de Dieu qui met en marche le mécanisme de l'Église. Nous voulons par le Saint-Esprit nous laisser baptiser dans un seul corps, dans un seul esprit pour former un seul corps. Et que personne dise, oui, mais à quoi est-ce que Dieu veut m'utiliser? Bien-aimés frères et sœurs, ne vous inquiétez pas et ne faites pas de plans. Soyez seulement en souci d'être baptisé par Dieu de manière que le corps du Seigneur soit un organisme vivant, pas un corps mort qui doit être porté, mais un corps vivant par lequel nous sommes tous portés. Loué et exalté soit le nom du Seigneur, avec des pieds en bonne santé, des yeux de la foi en bonne santé. Tout est en bonne santé dans le corps du Seigneur. Et ça, j'aimerais vous demander, est-ce qu'il y a de la pommade en Gilead? Oui. Pourquoi est-ce que la fille de mon peuple n'est pas encore guérie? Est-ce qu'il n'y a pas de médecin là-bas? Si le médecin est là, mais L'ordonnance n'a pas été respectée et n'a pas été prise. Mais mes frères et sœurs, nous voulons aujourd'hui prendre la prescription, la puissance de Saint-Esprit, la puissance de Dieu, la recevoir et de tout notre cœur remercier notre Dieu pour cela. Il veut notre bien. De tout son cœur, il a dépensé de paix avec nous. Tous, si nous puissions nous ouvrir et dire Seigneur, nous sommes pas venus en ce jour de la Pentecôte selon le calendrier pour seulement entendre une prédication sur la Pentecôte. Mais nous sommes venus pour faire l'expérience de la Pentecôte avec toi-même. Seigneur, toi qui as versé ton sang pour nous, accorde-nous ta vie, ton esprit. Baptise-nous d'esprit et de feu. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Amen. Levons-nous pour la prière. Alléluia. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Nous voulons tous prier. Prions tous. Alléluia. Tous ensemble, comme d'une seule bouche, un seul cœur, et d'un seul cœur et d'une seule âme. Alléluia. Loué soit Dieu. Dieu fidèle, Seigneur Dieu, adoration et honneur soit apporté à ton saint nom. Ta troupe, rachetée par ton sang, est ici, devant ta face rassemblée. Nous te remercions pour Golgotha, pour tes souffrances et ta mort. Nous te remercions pour le pardon, pour la grâce, pour le salut. Tu nous as appelés. Alléluia. Et nous t'appartenons. Tu nous as rachetés. Alléluia. Tu as parlé avec nous. Et tu nous as révélé ta parole, ta volonté. Alléluia. Loué soit Dieu. Honneur soit porté à son nom. Ô Seigneur, visite ton peuple d'une manière puissante, avec une effusion de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous te remercions que tu puisses créer une atmosphère d'amour, de reconnaissance, de louange et d'action de grâce et d'adoration. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, loué soit Dieu, loué soit Dieu. Honneur te soit apporté, toi, agneau de Dieu, fidèle, précieux, sauveur, tu nous as enthousiasmé de ton amour, touché de ton amour, par ton amour, honneur te soit apporté, honneur, gloire et adoration. Baptise cet esprit de feu, tu nous connais, Seigneur, tu nous vois, nous avons besoin de toi, besoin de ta puissance. Alléluia. Gloire et honneur. Honneur et adoration. Alléluia. Alléluia. Honneur, gloire et adoration. Sois au Seigneur. Gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Seigneur, viens avec ton esprit, comme tu es venu avec ta parole sur nous. Ainsi, avec ton esprit, viens sur nous, vivifie ta parole. Alléluia. Rends-la vivante, réelle pour nous, par ton esprit. Adoration te soit apportée. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu. Oh Dieu, alléluia, honneur et gloire soit à ton merveilleux nom. Oh Dieu, Père céleste, de tout mon cœur, je te remercie de ce que tu t'es reposer sur cette assemblée. Tu es descendu parmi nous. Seigneur, nous avons écouté ta parole et nous la croyons de tout notre cœur. Sauveur, quand nous, une source jaillit jusqu'à la vie éternelle. Je te remercie de ce que tu nous as vus dans ta grâce, par ta grâce. Et nous voulons que tu reçoives ce qui te revient de plein droit. Nous ne sommes pas à l'extérieur et nous ne sommes pas des gens qui seulement veulent avoir tes bénédictions, mais nous sommes des gens qui ont une espérance justifiée et une foi qui nous a été accordée de ta parole. Nous sommes ton peuple, héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Et nous te remercions de ce que tu l'as conduit ainsi. Alléluia. Que dans ces jours, nous pouvons fraîchement du trône recevoir la parole fraîche révélée de Dieu. Ô Dieu, particulièrement dans cette prédication traitée, tu, par ton serviteur le prophète et prophète, tout ce qui était du doute et de l'incrédulité, tu l'as balayé de côté et toute incertitude, tu l'as balayé, tu l'as mis de côté et tu nous as nouvellement ouvert les yeux et que tu seras avec les derniers comme tu as été avec les premiers et qu'à la fin tu feras ce que tu as fait au commencement. À toi, ô Dieu, soit la louange, la gloire, l'honneur et l'adoration. Je te demande que nous puissions tous prendre au sérieux et ces choses. Et aide-nous à cela et accorde-nous ta grâce. Et accorde encore une plus grande faim que tu satisferas, que tu combleras de la plénitude de ta grâce. Aujourd'hui encore, nous voulons puiser grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction de la plénitude de ton esprit. À toi, ô Dieu, soit la louange et l'honneur, la gloire et l'adoration dans toute éternité. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. C'est Jésus seul. J'ai touché le bord de son vêtement et son sang m'a purifié.